En ayant cette croissance fulgurante en ligne, en ayant des clients de plus en plus satisfaits, ça a permis de rentrer dans des industries où ça aurait été beaucoup plus difficile si on n'aurait pas eu le volume et la reconnaissance de la marque qu'on a aujourd'hui.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 99e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook, en gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois. G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Aujourd'hui sur Hypercroissance, on discute avec un entrepreneur fan de procédures et de croissance, deux sujets qui me passionnent énormément. Pour vous donner un peu de contexte, le 99e épisode du podcast se déroule avec Jeremiah Curvers, président et cofondateur de Polysleep, une boutique en ligne qui ne cesse de faire le palmarès des entreprises en plus forte croissance au Canada. Avec maintenant près de 15 millions de chiffres d'affaires annuels atteints en 5 ans seulement, Jeremiah nous raconte aujourd'hui les dessous de ces processus qui l'ont aidé à passer la barre des 8 chiffres de revenus. Après tout, il faut avoir des systèmes bien rodés quand on veut atteindre ce type de croissance avec, écoutez bien, seulement 10 employés. Tout au long de l'entretien qui dure un peu plus de 40 minutes, vous pourrez admirer comment Jeremiah a bâti son organisation et comment il se voit continuer à prendre des parts de marché dans les prochaines années. Sans plus attendre, ma discussion avec Jeremiah Curvers. Jeremiah Curvers, vous êtes le cofondateur et CEO de Polysleep, une boutique en ligne spécialisée dans la vente de produits visant à améliorer le sommeil. Selon un rapport publié par Newswire, votre entreprise a eu une croissance de 882% de 2017 à 2019 et continue de prendre des parts de marché importantes et ce, je tiens à le mentionner, sans capital externe. Jeremiah Curvers, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine pour l'invitation. Très content d'être avec toi aujourd'hui.
Et Jeremiah, j'ai cru voir que ton expérience vient beaucoup du volet publicitaire et encore plus spécifiquement du volet de la publicité numérique. Peux-tu nous dire aujourd'hui la genèse derrière Polysleep, à savoir si ton expérience en agence t'a poussé à lancer l'entreprise en 2016?
En effet, si tu m'aurais dit il y a quelques années, Jeremiah, tu vas vendre des matelas en ligne, j'aurais eu de la difficulté à te croire. J'ai travaillé pendant longtemps à évoluer dans le modèle du marketing numérique, particulièrement dans le temps chez Mediative, où je touchais autant du volet agence que du volet propriété web, que du volet annonceur, je dirais grande et moyenne entreprise. Tous les aspects de monétisation, de publicité en ligne, marketing, et même avant ça, chez Groupe Page Jaune, pour les très petites entreprises, dans le balbutiement des réseaux sociaux. Ça m'a permis de côtoyer, de voir également beaucoup de personnes faire des erreurs qui leur ont coûté plus ou moins cher et définitivement de m'aider dans mon parcours à ne pas les répéter. C'est sûr qu'il y a une très grande influence dans mon désir de lancer une compagnie en ligne, particulièrement e-commerce, qui vient de cette influence que j'ai eue là, dans le monde des agences.
Intéressant. Puis, je lisais en intro, Jeremiah, vous avez connu une croissance forte et accélérée depuis votre lancement. Là, je tiens à le dire, vous avez passé la barre des 8 chiffres de revenus et ça en 5 ans seulement. Et à la base, j'ai cru comprendre que vous offriez un seul produit et tranquillement, vous avez agrandi le spectre de produits que vous offrez à votre clientèle. Est-ce que ça a été un des éléments déclencheurs qui vous a fait accélérer? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres anecdotes que tu pourrais partager avec l'audience aujourd'hui?
Définitivement, je pense que ce qui a fait, ce qui a influencé grandement notre succès, c'est, puis je veux dire moi, mais il n'y a pas juste moi, il y a toute l'équipe. Je me suis entouré de personnes qui étaient vraiment obsédées par le service client puis la satisfaction client. Et dans l'industrie, c'est pratique commune de savoir, il y a très peu de manufacturiers qui vont faire de la mousse qui sont utilisés dans l'industrie du matelas. Et ça va être la même chose pour les ressorts. Il y a quelques manufactures. Et donc, l'important, c'est d'arriver avec ses propres recettes, ses propres combinaisons, de faire beaucoup de recherche et développement. Et c'est là, je pense, où on s'est différencié. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations, sachant qu'on n'était pas les premiers sur le marché. Et un de mes objectifs était toujours d'aller voir nos fournisseurs et de dire, d'aller sur le plancher et de demander à un ouvrier, si tu avais à choisir un des matelas, là, puis ils ne savaient pas nécessairement qui j'étais, lequel tu choisirais? Puis bon, là, c'est sûr que une personne sur trois me répondait, les deux autres n'osaient pas rien dire. Là. Mais l'idée, c'était de dire si dans la manufacture elle-même, versus trois ou quatre compétiteurs, la personne qui fabrique ça day in, day out, choisit mon produit, I think I did a good job. Et ultimement, je pense que c'est ce qui a vraiment poussé notre croissance. Ça, combiné à gérer une obsession de satisfaire le client, de leur offrir un meilleur produit basé, pas sur leurs préférences, mais sur leurs besoins physionomiques, a vraiment, vraiment influencé la manière dont on conçoit nos produits.
Bien sûr.
À l'origine, le matelas Polysleep et également la déclinaison de tous les autres produits qu'on a en date d'aujourd'hui.
Puis, corrige-moi si je me trompe, Jérémia, mais c'est pas venu d'une envie personnelle d'améliorer son sommeil également, cette création d'entreprise-là, parce que on a parlé du volet agence plutôt, du volet publicitaire. Donc, clairement, tu as une expertise avec le volet numérique pour commercialiser des produits. Mais je pense que, tranquillement, tu as voulu également essayer d'en apprendre plus sur l'amélioration que quelqu'un peut avoir avec son sommeil.
En fait, j'ai été forcé.
Forcé.
Puis je pense que oui, la vie m'a forcé à vraiment considérer l'importance, puis pas juste du sommeil, mais d'avoir des trains de vie équilibrés. On est très conscient de ces temps-ci face à des substances comme le sucre, des substances comme le tabac, la qualité des ingrédients qu'on va manger. Et je pense qu'on va juste devenir de plus en plus conscient et éduqué par rapport à l'importance du bien-être. Toute cette catégorie est en très forte croissance. Puis moi, ce qui est arrivé dans mon cas, donc j'ai eu l'opportunité de commencer à temps partiel dans le temps où j'étais encore dans mon dernier poste, avant de me lancer vraiment à temps plein avec Polysleep en tant que CEO, d'avoir une double hernie discale lors d'un tournoi de golf. Et là, j'ai été alité pendant plusieurs semaines. J'avais beaucoup de difficultés à me déplacer pendant plusieurs mois. Et c'est ce qui a vraiment, vraiment, je dirais, c'est là que les deux fils se sont connectés à me dire c'est tellement important d'avoir non seulement une bonne surface de sommeil, mais je voyais un physiothérapeute 3-4 fois semaine et je réalisais à quel point l'exercice, la mobilité, d'avoir une surface de sommeil qui répond à des besoins particuliers physionomiques et non pas de préférence. Je veux-tu un matelas plus mou, plus ferme, plus haut, plus bas, mais vraiment physionomiques font une différence sur la qualité de chaque jour qu'on passe.
Donc, c'est le service personnalisé qui, selon toi, puis j'ai pas envie de mettre des mots dans ta bouche, là, mais peut-être qu'à un certain point, pouvait manquer à l'industrie. C'est peut-être ça que vous vouliez pallier chez Polysleep, arriver puis d'avoir quelque chose qui a un meilleur service conseil, paradoxalement en ligne, là, on va dire ça comme ça, pour être certain qu'on soit capable de mieux éduquer le client pour qu'il ait une bonne expérience avec son sommeil?
En fait, il y a beaucoup de données mathématiques sur lesquelles on s'est appuyé pour décider qu'est-ce qu'on ferait. La première étant, dans la population globale, la grande majorité des gens vont se situer dans une échelle de poids. C'est-à-dire que la grande majorité des gens vont être dans le 100 à 250 livres. À part de ça, on parle d'extrême ou de, par exemple, des enfants. Ça, c'est très différent également. Et c'est là où, durant les périodes où j'étais alité, durant les périodes où on a consulté beaucoup d'experts, non seulement dans le fond, mais dans le milieu de la santé, qu'on a réalisé qu'il y a trois facteurs principaux qui influent la qualité du sommeil. L'alignement corporel, je dirais la capacité d'éviter une surface de sommeil, de créer des points de pression. Ce que je veux dire par là, c'est des endroits où, d'un point de vue musculo-squelettique, le sang aura de la difficulté à circuler, ce qui va créer des engourdissements. Et dernièrement, la dissipation de la chaleur. Parce que c'est inné. Quand on a trop chaud ou trop froid, c'est là qu'on va se réveiller souvent. Pas parce qu'on dort pas bien ou quoi que ce soit, juste parce que notre corps nous dit « Hey, il y a peut-être un danger. Est-ce qu'il y a un feu pas loin? Est-ce que tu es en train de geler? Tu es dans la nature? Tu es dans la forêt? » Donc, c'est entièrement logique. Et basé sur ces trois points-là, on a essayé de partir from scratch, vraiment là, du début à dire « OK, un matelas idéal, il ressemble à quoi? » Et c'est pour ça également, quoi, d'un point de vue longévité, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on est encore parmi les seuls à le faire, on utilise des mousses de grade biomédical qui sont antimicrobiennes avec une certification ISO. C'est pas infusé de 0,1% de silver qui fait fuir les vampires et les bactéries, là. C'est vraiment une science à l'appui de ce qu'on utilise au niveau des technologies. On a un contour de soutien aussi où on est parmi les seules compagnies qui font ça dans le matelas qui est livré à domicile. On est les seuls probablement aussi parce que ça coûte extrêmement cher versus si on compare ça à un matelas traditionnel où on fait juste mettre des couches de mousse les unes par-dessus les autres. Et donc, toutes ces choses combinées ont fait en sorte, je pense, que quand on a lancé le produit et la compagnie, les gens qui recevaient ce matelas qui tourne aux alentours de 1 000 $ comparaient ça à un Tempur-Pedic qu'ils avaient acheté 3 000-4 000 $ et le trouvaient supérieur. Donc là, c'est très rapide qu'il y a un effet boule de neige. Les gens se parlent, les gens comparent, les gens réfèrent. En plus, c'est fait au Québec. Nos manufacturiers sont québécois. On essaie d'avoir un footprint écologique le plus intéressant possible. On fait même des livraisons à vélo à Montréal. Donc, je pense que tout ça a fait un effet boule de neige aussi.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est important de le mentionner avec l'audience aujourd'hui. Ça, c'est à mon avis ce qui est le plus fascinant avec votre entreprise. Je l'ai dit, vous avez quand même un volume d'affaires qui est impressionnant, qui est intéressant surtout. Et combien d'employés vous êtes dans l'organisation, Jérémia?
on est 10 en ce moment. On est une petite équipe de 10.
Vous avez passé la barre du 10 millions de revenus et je pense, là, ultimement, vous allez quand même approcher très rapidement du 20 millions de revenus et vous êtes 10 employés. C'est exceptionnel. Comment on arrive à ça? Comment on peut bâtir une entreprise à cette vitesse-là, à cette croissance-là, avec les 10, c'est 9 employés plus toi ou 10 employés plus toi? Comment...
Oui, moi, je m'inclus dans les employés, wow. Dans la mesure où je vois la manière dont je travaille, à essayer le plus possible d'être à l'extérieur de l'entreprise, donc ne pas travailler dans le day-to-day, mais essayer de travailler sur les gens qui font que Polysleep a du succès. Je pense que le rôle d'un CEO est vraiment d'aider les personnes à maximiser leur potentiel et à s'épanouir dans leur cadre de travail, surtout dans un milieu aussi compétitif que le nôtre. Donc, j'ai des one-man team. J'ai des gens qui sont... super allumé. Toute mon équipe est une équipe d'entrepreneurs. Je les encourage à avoir des trucs sur le site. Du mieux que possible, j'essaie de les équiper avec les derniers outils qui leur permettent d'optimiser leur temps, d'optimiser leur travail, leur efficacité. Énormément d'automatisation. Et comme je dis, il n'y a pas juste moi, mais toute l'équipe est vraiment obsédée par la satisfaction au client. Et ultimement, quand on rajoute des processus, quand on rajoute des degrés de complexité, c'est là où, ultimement, on n'a pas le choix de charger un premium au client parce que l'infrastructure, le coût opérationnel augmente. Donc, on est très diligent là-dessus, à savoir, à chaque fois qu'il y a une ressource qui rentre dans la compagnie, ben de un, c'est un nouveau membre de la famille. On essaie d'être... On essaie de faire attention à être certain qu'il y ait un fit, à ce que la personne soit homogène, à ce que la personne se sente importante et épanouie. Je suis extrêmement transparent, donc chaque employé est au courant des finances autant que moi. Ça passe vraiment par une transparence totale. Et on le voit, je veux dire, les gens sont motivés. On avait hâte de tous retourner au bureau pour pouvoir travailler en équipe post-pandémie. Puis je pense que c'est vraiment le secret. C'est une équipe motivée qui travaille fort pour le client.
Là, j'ai l'impression que les gens doivent se dire comment tout ça est arrivé, parce que là, 10 employés, cette croissance-là, les gens doivent se poser des questions. Comment vous les faites, les matelas? Qui va s'occuper de les construire, de les livrer, tout ça? Peux-tu expliquer, et je crois que c'est très commun à l'industrie également, Jérémia, que vous n'êtes pas le manufacturier derrière les matelas, donc vous allez être davantage en mode de distribution. Peux-tu peut-être éclairer un peu l'audience sur la logistique de commercialisation, la logistique également au niveau des chaînes d'approvisionnement? Comment ça se déroule?
Absolument. Je veux dire, il n'y a pas de secret là-dedans. Au même titre que la boulette de bœuf qu'il y a chez McDonald's n'est pas nécessairement faite toujours par la même ferme, right? On a nos recettes qu'on a développées. Donc, c'est des recettes propres à nous, uniques à nous. Et chaque manufacturier dans le domaine a ses recettes de mousse, a ses fournisseurs de ressorts sur quoi ils vont travailler. Nous, on s'est vraiment concentré exclusivement sur des mousses hybrides à base de polyuréthane. On a dressé des alliances stratégiques avec des partenaires locaux qui sont des fournisseurs exclusifs à Polysleep. Et ça a été des challenges parce qu'il a fallu amener certains joueurs à devenir, je dirais, un dropshipper 2.0, je vais appeler ça. Donc, vraiment, à transformer une manufacture, à devenir un centre de distribution pour nous, avec des taux et des délais de fabrication extrêmement courts. Mais en revanche, ça leur a apporté énormément de business et ça a évité qu'une compagnie comme la nôtre aille produire ailleurs pour sauver les coûts de shipping qui, je vais le dire aujourd'hui, sont peut-être inexistants avec le prix des containers. Mais c'est ce qui nous a vraiment aidé à grandir aussi vite. On a des partenaires exclusifs qui vont fabriquer nos housses pour le matelas, la mousse encore une fois. On travaille avec Cascade ou Mutual Lincoln pour développer des boîtes qui sont non seulement écologiques avec des encres écologiques, mais même compostables. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail de corps et journalier avec nos fournisseurs pour les garder dans le loop. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une équipe aussi efficace et petite parce que toute la production, après la recherche et développement, est gérée par des partenaires avec qui on travaille depuis maintenant 5 ans.
Donc, 10 employés. On a parlé également du volume d'affaires. Je pense qu'il n'y a pas de capital externe à ça. Je me trompe-tu?
Non, ça, c'était pour moi quelque chose d'important. je voulais garder contrôle sur la compagnie. Donc, c'est sûr que le problème du capital externe, c'est souvent, ça vient avec une dilution, avec éventuellement un board au niveau de la direction, avec une capacité de prendre des décisions et de réagir beaucoup moins rapidement. Et on voulait assurer une pérennité dans l'entreprise. Je vous dirais que c'est pas toujours facile. On a eu au début un peu de support financier ici et là, puis c'est des choses sur quoi on travaille, mais on n'a pas eu besoin de dissoudre ou d'aller chercher des prêts ou de donner des pourcentages à qui que ce soit. C'est vraiment... ça permet vraiment à l'équipe de Polysub de garder un contrôle total sur la vision, le développement de produits, la pénétration du marché, etc. Puis on le voit, hein, je veux dire, plus on a de capital externe d'injecter, plus la pression devient importante après dans les marchés. Je pense qu'il y a du positif et du négatif dans les deux, mais c'est quand même une fierté là, quand on voit un peu le milieu compétitif dans lequel on est, d'avoir un store Shopify où on n'a jamais cliqué sur le bouton « on va chercher le 2, 3, 4, 500 000 d'extra pour faire de la pub » ou d'appeler Clearbank et Clearco pour leur dire…
Oh, même pas non plus?
Non.
OK, il n'y a pas de… Wow!
Ouais, okay. Ouais. Donc, je veux dire, on a eu quelques investissements maison, mais ça n'a pas été l'entremise des banques à 10% ou 8% d'intérêt. Là. On a toujours essayé de garder les investissements les plus bas possibles pour éviter justement que ces taux d'intérêt s'accumulent, puis qu'on tombe dans cet effet boule de neige où, bon, ben là, je suis en round C, là, il me faut une round A parce que je veux engager puis je veux grossir. Après ça, je tombe en round B, puis là, tu n'as plus vraiment le choix de faire d'autres choses que de t'enligner vers le IPO ou de lancer la patate chaude à une plus grosse compagnie, ouais. Parce que ton ratio d'endettement versus la croissance de ton revenu et ta capacité à grandir, ben tu perds le contrôle. Hein. Il y a des avantages dans certains milieux, mais dans un milieu où on voulait assurer la pérennité du produit, de la marque, et d'être là dans 50 ans quand les gens vont aimer Polysleep, on a préféré être plus prudent à ce niveau-là.
Puis, j'ai l'impression également que quand on va chercher plus de capital externe et qu'on veut aller plus vite, et que là, des fois, on veut uniquement de la croissance, la personne qui en paye le plus le prix, c'est le client. Et vous, ça a l'air d'être la priorité numéro un chez vous, la satisfaction client, parce que c'est ce qui arrive. Hein. Quand on veut de la croissance à tout prix, des fois, ben la croissance à tout prix, elle a un prix, et souvent, c'est peut-être le client qui, malheureusement, va peut-être être délaissé dans tout ça. Donc, ça peut avoir du bon de garder la main mise sur son entreprise. Et je pousse également la réflexion plus loin. Ça vous permet également d'avoir une vocation sociale. Donc, c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là. J'aimerais peut-être que tu me corriges là-dessus, Jérémia, si je dis pas les bons chiffres. Mais j'ai l'impression de ce que j'ai été capable de lire, qu'à chaque 10 matelas que vous allez vendre, vous allez en offrir un à un organisme de charité qui va pouvoir aider des gens qui en ont besoin. Est-ce que c'est ça un petit peu la mécanique qui se déroule chez vous?
Absolument. Donc, en fait, dans l'industrie, parce qu'on offre le sans-nuit d'essai gratuit, et le sans-nuit d'essai n'est pas un échange. Donc, c'est-à-dire que la personne qui commande un matelas Polysleep ou un Zephyr, après une période de probation de 45 jours, on a mis ça en place pour éviter de l'abus, là, bien sûr, mais entre 45 et 100 jours, la personne peut tout simplement nous dire si ça ne lui convient pas. C'est pas le matelas que j'aurais espéré recevoir. Et à ce moment-là, pour éviter, encore une fois, l'impact écologique, parce que les clients, puis on peut pas les blâmer pour ça, ne réalisent pas nécessairement que le e-commerce vient avec un footprint important au niveau de l'empreinte carbone à cause de la livraison. Je veux dire, quand on va magasiner dans un centre d'achat puis qu'on fait 5 boutiques, ben on s'est déplacé une fois. Quand on achète 5 articles différents sur 5 sites web différents, ben c'est 5 camions de FedEx ou d'UPS ou d'ailleurs qui vont se déplacer vers la maison. Et quand on retourne sur les 4 paires de souliers qu'on a acheté, 3 de ces paires de souliers, ben c'est un autre déplacement. Donc, ce qu'on fait à la place, nous, c'est qu'on s'est dit, impossible et pas question qu'on revende un matelas usagé après avoir été déballé. Et de deux, je pense qu'il y a assez de gens dans le besoin qui ont besoin d'une bonne nuit de sommeil et il y a assez d'organismes de charité qu'on peut peut-être aider des gens à ce niveau-là. Donc, on fait affaire avec tout près de 300 organismes de charité au Canada, d'articles, des organismes très petits comme des organismes plus gros. Et à chaque fois qu'on a une personne qui désire retourner le matelas, on leur propose cela. Et ça représente à peu près 6 %. Et après ça, ben, il y a des initiatives qu'on fait où tout récemment, pour une fondation, on a donné 200 oreillers. Puis la fondation a aidé les personnes qui ont souffert des abus domestiques durant la période de la COVID. Ça a été assez rough pour eux, donc on a pu les aider. Ou encore la ville de Toronto, on a donné... J'ai plus les nombres exacts en tête, mais on a même eu le maire de Toronto qui nous a remercié pour ça. On avait meublé tous les centres d'hébergement qu'ils avaient créés d'urgence durant la COVID avec des matelas Polysleep. Donc, on essaie vraiment d'améliorer la condition de sommeil, puis c'est notre mission d'améliorer la condition de sommeil du plus grand nombre de Canadiens possible. Mais chaque entreprise aujourd'hui, oui, peut avoir une belle croissance, oui, peut générer des revenus, mais on bâtit une richesse commune en se penchant également sur les besoins des personnes les plus démunies. Et je pense que d'avoir une entreprise, il y a un certain niveau de responsabilité où tout ce qu'on peut faire pour aider le plus grand nombre de gens possible, on devrait le faire. Puis, ça donne bien dans les cordes, là.
Félicitations pour ça. Et c'est intéressant que tu amènes ce point-là. Jérémia, j'ai un entretien qui arrive là, dans les prochains jours avec une dame qui, pour son entreprise depuis plusieurs années maintenant, a la certification B Corp. Et toutes les préparations qu'on avait avant le podcast, on parlait de B Corp, on parlait de l'importance maintenant qu'une entreprise ne peut pas uniquement avoir une vision de profitabilité, ce n'est plus assez. On doit avoir une vision beaucoup plus large de ce que l'entrepreneuriat peut amener dans un contexte sociétal. Hein. Et je pense que vous faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire aider la communauté en ce sens, donc c'est une très bonne chose. J'aimerais revenir, Jérémy, un petit peu au niveau affaires, au niveau logistique. J'ai l'impression que c'est une de vos forces. Tout a l'air automatisé, vous êtes une petite équipe, ça a l'air d'être une machine assez bien rodée, Polysleep. Tu me parlais dans un entretien qu'on a eu préalablement ensemble que ça va vite. Ça va vite entre le moment que quelqu'un va commander chez vous et qui va recevoir son matelas. Je pense qu'également, vous avez trouvé une manière économique de faire en sorte que vous n'avez pas besoin d'avoir trop d'inventaire en avance. Vous êtes capable d'excessivement bien gérer votre inventaire pour pas avoir des surplus, pour pas avoir des coûts que vous allez débourser très longtemps en avance. Et finalement, ça va prendre des mois et des mois avant que vous sortiez ce que vous avez vendu. Es-tu capable de nous partager un petit peu la sauce secrète, sans trop peut-être rentrer dans les détails, de comment ça se déroule cette logistique chez Polysleep?
Absolument. Je pense que la première étape, c'est d'avoir mainmise sur son data. D'un point de vue historique, la première année, on savait pas trop où on s'enlignait. Maintenant, avec notre historique de croissance, c'est sûr que bon, la pandémie a changé un petit peu le la donne. Mais généralement, on sait à peu près mois après mois le volume qu'on aura à générer en termes de d'envoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des projections sur une base mensuelle pour garder un inventaire d'à peu près un mois et demi au maximum. Donc, quand le client commande, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont localisés, l'envoi part et est reçu de 24 à 72 heures tout au plus. On a eu quelques petits délais additionnels durant le début de la pandémie qui se sont résorbés très rapidement. À Montréal, je dirais même la majorité des livraisons sont allées 24 à 48 heures et dans certains quartiers, comme je disais, elles sont même faites par vélo. Donc, au niveau... je dirais au niveau des secrets, d'avoir une mainmise sur son data et d'avoir une équipe hyper réactive sur la gestion de l'inventaire. Ça, c'est primordial. À partir de là, dépendamment des volumes, nous, on a la chance que la majorité de nos ventes sont réparties dans les grands centres urbains, donc grandes régions de Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Donc, le dispatchage se fait très rapidement et très bien. Là où ça va aller un petit peu plus lentement, c'est dans les régions éloignées. Donc, je dirais ça, c'est vraiment la priorité. Si vous contrôlez votre data, vous savez combien d'inventaire vous allez avoir besoin. Gardez-le en stock parce que les surplus d'inventaire réduisent la capacité d'investissement dans d'autres aspects. Cependant, la pandémie a été un challenge pour nous, comme beaucoup d'industries, où les délais de fabrication sont plus importants, même si on fabrique 100% au Canada. Beaucoup de matières premières des fabricants qu'on utilise, elles, ne sont pas produites au Canada. Je veux dire, c'est devenu un petit peu le running gag à dire si vous trouvez des champs de coton au Canada, dites-le moi, parce que on n'en a pas encore trouvé non plus. et c'est là où il y a eu des délais additionnels qui nous ont surpris au début. On s'est réajusté depuis. Et c'est ça qui nous permet d'être aussi efficaces là, au niveau des délais de livraison, puis aussi au niveau de la qualité du produit. C'est pas un matelas qui a été sur le shelf là, pendant 12 mois, 18 mois, etc. Là.
Mais c'est ce que tu disais dans un entretien que j'écoutais pour faire la préparation de ce balado. C'est peut-être un des apprentissages que tu as tiré de la pandémie, c'est de te dire on va peut-être avoir un petit peu plus d'inventaire dans le futur qu'on avait préalablement parce que, comme tu l'as dit, il peut avoir certains délais, certains enjeux, des fois qu'on peut pas prévoir.
Absolument. Puis, je veux dire, post-pandémie aussi, dans la croissance de Polysleep, je pense que j'étais assez clair. Notre objectif n'est pas de devenir une marque de matelas dans une boîte, mais vraiment d'offrir et d'améliorer la condition de sommeil du plus grand nombre de Canadiens possible. On est une compagnie québécoise, on est fiers de l'être. Puis, dans notre croissance, le retail est la prochaine suite logique. Donc, les magasins avec des pignons sur rue physiques. D'ailleurs, là, je l'annonce, ça, c'est un scoop officiellement.
Oh.
Si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on a signé notre première entente avec la chaîne de magasins d'ameublement Tanguay. Donc, on va commencer à avoir nos produits disponibles chez Ameublement Tanguay. On est très fiers et très contents de ça.
Oh wow, félicitations.
Puis c'est sur notre roadmap de vraiment continuer notre développement au sein d'entreprises qui sont dans le retail, qui ont un bon positionnement physique, géographique, de manière à tout simplement offrir notre produit à des gens quand ils le veulent et où ils le veulent. C'est pas tout le monde qui veut acheter en ligne. Je pense que la post-pandémie nous le prouve également. Les gens avaient hâte de pouvoir retourner en magasin. Et je pense que de créer cette synergie entre les deux est primordial. Il y a beaucoup de marques qui travaillent fort en ce moment pour rehausser et améliorer l'expérience client, donc on va en faire partie.
Et vous allez le faire encore en tant que distributeur, vous voulez pas ouvrir des...
Tout à fait.
Exactement, OK. Donc, vous voulez pas ouvrir des magasins.
On va le faire en tant que distributeur, puis ce que je trouve super intéressant, c'est que en ayant cette croissance fulgurante en ligne, en ayant des clients de plus en plus satisfaits, ça a permis de rentrer dans des industries où... ça aurait été beaucoup plus difficile si on n'aurait pas eu le volume et la reconnaissance de la marque qu'on a aujourd'hui. Donc, de commencer dans le monde digital nous a permis de se rendre là. Cependant, il y a beaucoup de gens qui s'essayent, je dirais, puis c'est, pas juste dans notre industrie. Ce qu'il faut faire attention aujourd'hui du e-commerce, c'est le coût associé à la pénétration d'un marché. Les grands gagnants de ces startups, souvent dans le produit, ben, ça va être Google et Facebook parce que.
Exactement.
on se réveille 6 mois plus tard avec 1 ou 2 millions d'investis sur ces plateformes, puis on se dit, ouais, ben, finalement, c'est tough.
Ouais.
Donc, l'objectif, c'est toujours d'en laisser le plus possible à ceux qui vont nous aider à faire connaître le produit sans faire de compromis sur la qualité du produit que le client va recevoir. Et c'est là que c'est souvent un challenge. C'est pour ça que l'e-commerce, quand on a commencé, était super intéressant. Mais en toute honnêteté, aujourd'hui, quand on regarde les coûts associés avec la publicité en ligne versus les pourcentages qui sont devenus de plus en plus raisonnables avec les grandes surfaces, ben ça devient pas loin d'être similaire. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bon, ben on peut arriver à négocier des ententes avec des gens qui le veulent pour avoir nos produits en magasin également.
Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Avant, les gens, on avait des magasins et le trafic, ben, c'était selon ta localisation. Ben, avant, on en a encore, il y en a encore beaucoup des magasins, mais la vision de base, c'était d'ouvrir un endroit et d'avoir une bonne localisation. Donc, on achetait le trafic de l'endroit en soi. Maintenant, le trafic, on le paye en publicité quand on est en ligne et ça ne devrait pas changer dans les prochaines années, mais il ne fait que monter. Hein? C'est-à-dire, la publicité en ligne, c'est pas prêt de coûter moins cher. Donc, c'est vrai qu'à un certain point, à un moment donné, il peut y avoir tellement une concentration importante d'entreprises qui veulent chercher ces parts de marché-là qu'il faut peut-être regarder ailleurs sur d'autres opportunités. Et je suis curieux, est-ce que c'est les grandes chaînes comme Ameublement Tanguay et peut-être même d'autres qui sont venues vers vous? C'est vous qui avez fait les premiers pas pour commencer à faire de la distribution dans leurs magasins?
Je dirais, on en a approché quelques-unes récemment dans le cadre d'Ameublement Tanguay, qui ont une super belle équipe. Si je me rappelle bien, ils nous avaient approchés parce qu'ils aimaient vraiment notre marque. Puis, honnêtement, j'étais réticent un peu au début. Là, c'était la première fois. Et finalement, c'est du monde super. Puis les conversations ont bien été. Puis on s'est adapté en conséquence. Et pour revenir un petit peu au volet, c'est un petit peu... la porte d'entrée pour ça. Au niveau logistique, c'est là où on a encore du chemin à faire parce que là, on parle de compagnies qui travaillent avec des systèmes EDI. On est à l'aise avec Amazon, mais là, en ce moment, on est en négociation pour entrer, par exemple, chez Costco ou à d'autres endroits. Et là, donc, il faut des systèmes d'automatisation, de gestion d'inventaire, des systèmes EDI beaucoup plus robustes. C'est ce qu'on est en train de faire de manière à pouvoir répondre à leurs besoins en respectant les délais les plus courts possibles parce que c'est toujours dans l'objectif d'avoir les biens disponibles pour les clients quand ils le veulent.
Intéressant. Puis, dis-moi, Jérémia, avant que je te pose peut-être des questions plus personnelles, business, à quoi ressemble l'avenir de Polysleep? On a parlé de grandes surfaces. On a parlé que tu veux garder l'entreprise, donc tu n'es pas intéressé à aller chercher du capital externe. Et j'imagine, tu n'es pas intéressé présentement à vendre l'entreprise. Donc, tu dois quand même avoir une vision assez claire d'où est-ce que tu veux t'enligner pour les prochaines années.
Ouais. Mais comme je dis, hein, toujours Dieu voulant, on va avoir la chance d'avoir cette croissance continue. En toute transparence, on a été bénis dans ce contexte aussi sombre qui a été la pandémie parce que la catégorie ameublement, home and garden, comme on appelle, a été explosée. Hein. Les gens étaient, comme on va le dire, là, pris à la maison et devaient... Ouais.
Surtout de l'invente en ligne.
Absolument, absolument. Les gens achetaient en ligne et ils achetaient pour rendre leur petit cocon intérieur le plus confortable possible. Donc, ça nous a considérablement aidés. Cependant, on voit une petite diminution. Donc, on essaie d'être prudent à ce niveau-là. C'est un milieu aussi extrêmement compétitif où on sait qu'on est un petit peu encore David versus Goliath. Là, et il faut qu'on soit prudent à ce niveau-là. On garde vraiment le focus sur nos clients, donc... La suite logique des choses qu'on est d'ailleurs en train de préparer, on a une grosse campagne de marketing qui va frapper l'Ontario au mois de novembre et décembre cette année. On commence aussi à être plus agressif dans notre pénétration du marché américain. Donc là, on vend aux États-Unis. On essaie vraiment de créer une vague là-dessus. Cependant, c'est un test. On va tester en Q4 cette année vraiment une stratégie pour essayer de pénétrer le marché des États-Unis pendant qu'on continue notre croissance au Canada et on verra où est-ce que ça nous mène. Et c'est ça.
Ben c'est tout à votre honneur d'avoir fait le tout vous-même, sans tellement d'aide à l'externe, avec votre équipe qui a l'air d'être 10 soldats à l'ouvrage qui sont là pour le bien de l'entreprise, pour le bien de vos clients. Donc, félicitations pour tout ça. Et Jérémy, j'aime toujours terminer avec des questions un petit peu plus personnelles. Donc, j'ai eu un scoop comme quoi que tu as 3 livres à nous parler aujourd'hui. Donc, je pense que tu es un amateur de lecture. Tu peux-tu en dire un petit peu plus à l'audience? Parce que on le sait, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour me reparler d'un livre que quelqu'un a dit sur le podcast. Donc, j'aimerais t'entendre ici à ce sujet-là.
Définitivement. Un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le temps où j'étais en mode est-ce que je vais chercher du capital externe? Est-ce que je vais chercher juste un super angel qui va me donner un coup de main ou des banques, etc.? Ça a été Venture Deals de Brad Feld.
Il est juste derrière moi.
Moi, j'ai adoré ce livre parce que ça permet d'aller chercher du vocabulaire dans le monde du VC et de comprendre un peu comment la machine fonctionne. Mais si on lit à travers les lignes, d'aussi comprendre que ça s'applique pas ou que c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire pour tout type d'industrie. Donc, moi, ça a été vraiment révélateur. Après, c'est sûr que il n'y a pas une école qui nous apprend à devenir CEO. J'ai eu la chance d'avoir des postes en gestion et à gérer des grosses équipes, des équipes syndiquées à un très jeune âge, dans le temps de Page Jaune ou chez Mediative. Mais deux livres qui m'ont beaucoup aidé. Le premier va être CEO Tools 2.0 de Jim Canfield.
OK, je connais pas.
Et qui est vraiment un livre pour je dirais... ouais, un manuel d'instruction pour le CEO là, de nouvelle génération. Super intéressant. Et le dernier, je dirais Big Five for Life, qui est un super bon livre aussi pour comprendre que la balance entre les objectifs de vie et les objectifs financiers et corporatifs doit être respectée pour avoir une équipe qui travaille dans la bonne direction.
Podcast? Est-ce qu'il y en a quelques-uns?
Définitivement, en français, je dois te féliciter. Le tien est super intéressant, puis je pense que tu fais une super bonne job. Donc ça, continue là-dessus, Antoine, c'est super cool. Du côté anglais, il y en a deux en particulier que j'aime beaucoup parce qu'ils vont toucher en long et en large le monde du retail, The Voice of Retail avec Michael LeBlanc. J'ai eu la chance d'avoir été invité aussi sur ce podcast. Des super bons invités. Il va un petit peu plus down the rabbit hole, donc des sujets très particuliers par rapport à certains profils et un petit peu plus poussé au niveau des trends et de l'évolution du retail qui est Remarkable Retail.
Donc, tu essaies de rester pas mal dans ta catégorie, dans ton industrie pour aller chercher le maximum de trucs et astuces des géants, là.
C'est que ça bouge tellement vite, Antoine. Tu sais, je te dirais, on essaie vraiment de... Les piliers de Polysleep sont l'obsession de service client, une équipe forte et l'innovation. Donc, ultimement, pour rester en mode innovation, faut qu'on reste le plus proche possible de ce qui arrive dans la catégorie, mais... Quand on voit un peu ce qui est en train de se passer dans le gros corporatif, là, je pense par exemple à Kia ou Hyundai, puis Vans particulièrement, qui commencent à investir dans le metaverse, alors que les gens ne savent même pas de quoi on parle, c'est que ça s'en vient. On n'est pas là encore, mais je regarde ça du coin de l'œil pour essayer de rester le plus proche de cette réalité aussi. Là.
Ben, Jérémy, je t'écoute depuis tout à l'heure, puis à mon avis, tu as dû regarder de près ou de loin ce que Jeff Bezos fait parce que les valeurs de l'entreprise, la manière que tu vas approcher le client, c'est très une vision d'Amazon. Peut-être que je peux te conseiller ce livre qui a été ma lecture de l'année jusqu'à maintenant. Donc, les gens ne le voient pas à l'écran présentement, mais je parle de Amazon Unbound. J'en ai fait une analyse sur hypercroissance de ce livre totalement fascinant. C'est orienté avec les valeurs que tu as dit. Ces valeurs-là doivent revenir à peu près 250 fois dans le livre. La satisfaction, c'est même pas la satisfaction, c'est comme tu l'as dit, c'est client obsession, donc l'obsession du client. Et ils sont très axés à l'innovation également Amazon. Puis aux dernières nouvelles, ils sont pas pires en commerce en ligne. Donc je pense que ça peut être bon d'aller jeter un petit coup d'œil à ce livre-là. Je terminerai, Jérémia, as-tu une routine avant, pendant et après le travail?
Oui, puis en toute transparence, c'est drôle pour quelqu'un qui œuvre dans le domaine du wellness, tu vas voir un paradoxe et des parallèles assez importants là-dedans. C'est sûr que le soir, d'ailleurs, on a un partenariat avec eux, on travaille avec Relax Melody.
OK.
Pour faire de la méditation, qui est une des plus grosses apps dans l'App Store. Donc, chaque personne qui achète un produit Polysleep a un essai gratuit avec leur application. J'utilise ça pour essayer d'améliorer ma nuit de sommeil. Mais souvent, quand j'arrive à la maison, je reviens à mon enfance et je vais consacrer une heure ou deux, si possible, à soit regarder des mangas, des dessins animés japonais ou jouer à des jeux vidéo. Puis, c'est quelque chose d'ailleurs où je dirais une des personnes qui m'a beaucoup influencé sur la manière dont il gère son entreprise et comment il a bâti une histoire de succès, c'est Gaben. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas, mais je vais être curieux d'en apprendre plus.
En fait, c'est le fondateur de Microsoft Windows, qui travaille chez Microsoft dans le temps. C'est lui qui a inventé Windows et qui finalement est parti dans le monde du jeu vidéo avec la compagnie Sierra qui a fait Half-Life pour finalement devenir Steam. Puis donc c'est assez impressionnant de voir comment il a bâti ça. Puis ça a été une source d'inspiration à savoir comment je voulais bâtir, même si on est dans des mondes et des milieux foncièrement différents. Et après ça, je dirais, je suis un grand amateur de cigares. Donc, que ce soit en solitaire ou en groupe, j'aime bien me prendre une heure et demie pour me prendre un café, un cigare, justement, en faisant un peu de lecture.
Ah, c'est bien ça. Mais il y avait Nicolas Duvernois qui était venu sur le podcast et qui nous avait dit la même chose. Donc, comme quoi les cigares, ça peut être une belle habitude de temps en temps. Moi aussi, j'aime ça de temps en temps. De prendre un bon cigare. Jérémia, merci énormément. J'ai l'impression que, je le répète, là, mais vous avez l'air d'avoir une machine bien huilée chez Polysleep, à 10 employés, avoir cette croissance-là. Et vous n'avez pas l'air d'avoir nécessairement besoin de 10 autres employés demain matin. Donc, la croissance se fait sans nécessairement tout le temps plus de main-d'œuvre. Donc, ça a l'air vraiment d'être bien rodé tout ça. Félicitations pour avoir bâti une entreprise de la sorte. Et peut-être si les gens veulent en apprendre plus, votre site web, avez-vous des contenus spécifiques? Est-ce que tu es actif un petit peu toi-même sur les médias sociaux?
Absolument. C'est sûr que moi, je dirais la meilleure manière de me contacter, c'est via LinkedIn ou des conférences. Je vais être à DX3, par exemple, pour DX3 USA au mois de novembre ou DX3 à Toronto. Je suis accessible sur LinkedIn. C'est sûr que je suis pas le plus rapide avec la gestion d'agenda que j'ai à faire. Sinon, bien sûr, pour nos produits, policy.ca. Et si vous allez dans la section du blog, on a énormément de contenu sur le bien-être, que ce soit de l'optimisation pour l'ergonomie au bureau, des exercices de méditation. On a des catégories avec des guest bloggers qui commencent à écrire du contenu de manière de plus en plus fréquente. Donc, beaucoup d'articles de contenu intéressants qui ont aucunement rapport avec nos produits, mais qui aident les gens à améliorer leurs conditions.
Merveilleux. Ben, on va mettre un lien dans les notes de l'épisode, Jérémia. Donc, merci beaucoup de ton temps. Fascinant. Une conversation assez exceptionnelle, ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. On est maintenant plus près que jamais des 100 épisodes pour le podcast. J'espère que l'histoire de Jérémia ainsi que celle des 98 autres épisodes continue de vous inspirer et de vous donner des trucs et des astuces pour votre entreprise semaine après semaine. Je vous invite d'ailleurs à être à l'affût lundi prochain pour le 100e épisode. On recevra à ce moment un des plus grands entrepreneurs de l'histoire du Québec et je vous ferai également une annonce exclusive. D'ici là, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir discuter avec moi et à chaque fois que je lis vos commentaires, ça me fait très plaisir. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.